au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
Bonjour, je suis le bibliologue. Aujourd'hui, nous ne ferons pas de chronique, mais nous avons un invité, Michel Demont, qui est le créateur, l'inventeur, le directeur, je ne sais pas quel titre lui donner, de rarebooks.info. Michel Demont est un financier, mais un financier bibliophile, ce qui est une race qui n'est pas particulière, parce qu'il y en a quand même un certain nombre comme lui. Mais lui, il a une idée, donc il va nous en parler, de créer ce site internet qui a la particularité de comporter 101 bibliographies. Comme chacun sait, la bibliographie est l'instrument indispensable à tout bibliophile, marchand, chercheur, universitaire. Sans ces réunions d'ouvrages par thème, on ne saurait rien non plus. Michel Demont, bonjour.
Bonjour.
Alors, rarebooks.info, qu'est-ce que c'est ?
Bah, c'est un site à l'origine qu'on a voulu... pour pouvoir voyager avec notre bibliographie. C'est-à-dire que vous avez là une centaine ou un peu plus de volumes, et c'est très difficile évidemment d'aller parcourir le monde à regarder des livres en se promenant avec cette masse bibliographique. Or là, tout ça se trouve sur un ordinateur, donc c'est extrêmement simple de transport et d'utilisation.
Donc on appuie, on met un mot, on appuie sur, on fait un petit clic et on a la réponse.
Alors on peut mettre un mot, plusieurs mots, des dates... On a un système de reconnaissance d'images qui fait qu'on peut parcourir des bibliographies en facsimilé, en tournant les pages ensuite dans un sens ou dans un autre, sur des critères de recherche qui peuvent être extrêmement multiples.
Oui, car précisons bien, lorsque nous sommes sur le site, nous avons des livres ouverts avec des pages.
Absolument, ce sont des facsimilés. Quand vous regardez le Brunet, qui est le plus connu, vous pouvez interroger Pascal Pensée 1670, donc vous tomberez sur l'édition originale, ou presque, des Pensées, et vous pourrez ensuite parcourir le Brunet en regardant toutes les éditions successives des Pensées de Pascal.
Combien ? 101 bibliographies, j'ai fait le compte.
101 bibliographies, dont beaucoup de françaises, bien sûr, mais aussi beaucoup de bibliographies étrangères. Nous avons le Darlot, par exemple, pour les Bibles, le Lippershey pour les costumes, le Sabin pour l'Americana, le Gödecke pour les livres allemands, le Lanz pour les livres anglais, etc.
Et des thématiques comme le Carrard pour les supercheries et surtout les anonymes, ce qui est quand même très très précieux.
Tout à fait.
Vous avez aussi sur les livres pour enfants, sur l'architecture, sur les jardins, enfin c'est assez considérable.
Absolument, et la beauté de la chose, c'est de pouvoir en fait interroger dans des livres des mots-clés dans des livres qui ne sont pas structurés, qui ne sont pas indexés. Par exemple, si vous prenez le catalogue Morgan, le catalogue Morgan n'est pas indexé. Donc c'est très compliqué de chercher dans le catalogue Morgan. Donc c'est un des avantages de ce site de pouvoir chercher dans des livres de texte non indexés.
Alors comment ça-t-il été réalisé ce site ? Parce que c'est quand même 101 bibliographies, ça représente combien ? 600 000 pages, donc non pas à photocopier mais à scanner. Comment avez-vous réalisé ? C'était progressif.
Alors, à l'origine, on a tout simplement trouvé que la plupart des bibliographies étaient exemptes de copyright. Donc, on s'est dit, tiens, il faudrait qu'on fasse un... À l'époque, il n'y avait pas encore d'ADSL, hein. Il n'y avait pas encore d'Internet rapide. Donc,
il y a six ans et demi.
Donc, la DSL est arrivée tout de suite après. Donc, on était vraiment des précurseurs dans ce domaine. Et on s'est dit, eh bien, prenons le Brunet, par exemple, et puis mettons-le sur Internet, comme on disait, et trouvons un moteur de recherche capable de chercher des caractères, qui soient des caractères soit penchés à droite, penchés à gauche, gothiques, etc. Voilà. Et on a trouvé un moteur de recherche qui, aux États-Unis d'ailleurs, qui nous permet de faire ça. Et donc, on s'est dit, on va rajouter des bibliographies au fur et à mesure. Mais le problème, c'est que pour rajouter des bibliographies, il faut les choisir. On citait le Brunet, il faut avoir la cinquième du Brunet, par exemple, etc. Donc, il a fallu que nous créions un comité de sélection des bibliographies, et qui est patronné par Sandra Heinemann, qui est une ancienne professeure d'histoire médiévale à Northwestern, Chicago, et qui anime un comité qui sélectionne les bibliographies. Dans lesquels nous avons des sommités internationales.
Je dirais avec un petit peu de taquinerie, il n'y a pas beaucoup de Français.
Il y a M. Dupuis-Grenet, par exemple, qui d'ailleurs vient d'émigrer en, oui. en Amérique, mais qui est français.
Oui. Bon. On retrouvait des noms comme Félix de Marès Hoyos, qui oui. est un néerlandais très connu des amateurs de manuscrits enluminés.
Absolument, grand spécialiste aussi oui. De reliure. Donc on a ce comité qui sélectionne des bibliographies qu'après ça, nous allons trouver sur le marché, qui sont souvent rares. On a par exemple un Goff annoté qui n'est pas évident à trouver. On a des choses comme ça.
Le Goff, c'est une bibliographie de...
D'incunables. Ce sont des incunables. Et c'est la bibliographie de référence en matière d'incunables. Donc, et c'est un Goff qui est annoté. Nous avons par exemple aussi des catalogues de vente, dont la vente Rahir, avec les prix de l'époque. Donc c'est ouais. assez amusant de voir ça.
Vous avez des catalogues également du Baron Pichon.
Voilà, Pichon, absolument.
C'était un grand collectionneur au 19e siècle.
Oui, grand collectionneur, quelqu'un qui a sauvé beaucoup de livres, si on présente ça positivement, et qui a trafiqué beaucoup de livres, si on le présente négativement.
Nous avons parlé ici du fameux rôti cochon, oui. qu'il avait ressorti, qui fait toujours un petit peu sourire. Alors, je crois savoir que vous êtes arrivé à 100 bibliographies, que maintenant, vous arrêtez.
On va faire des versions successives, c'est-à-dire que nous avons jusqu'à présent rajouté des bibliographies mois après mois sans faire une version définitive à chaque étape. Là, nous avons décidé de faire cette étape, de clore cette étape et de stocker des bibliographies que nous mettrons maintenant dans un an et demi en ligne. Donc on va faire par vagues successives et au lieu de les mettre une par une, on les mettra vingtaine par vingtaine ou trentaine par trentaine.
Par exemple ?
Par exemple, là, nous avons rajouté un grand nombre de bibliographies. On en a rajouté 30 à la dernière vague. Et donc, nous allons, normalement, dans la liste qui était prévue et qui est affichée d'ailleurs sur le site, il en reste encore quelques-unes que nous n'avons pas pu mettre en ligne parce que nous ne les avons pas trouvées à ce stade et nous allons les mettre la prochaine fois. Je n'ai pas de titre en tête là.
Là, vous concurrencez toutes les grandes bibliothèques. Et en même temps, ce sont elles qui sont vos clients.
Alors, on ne les concurrence pas du tout parce que la plupart des grandes bibliothèques abonnées, nous avons à peu près 55 bibliothèques publiques et privées abonnées, ont évidemment chez elles toutes ces bibliographies, et plus que ça. Mais elles utilisent un site comme ça parce qu'elles veulent permettre à leurs chercheurs de travailler éventuellement chez eux et de voyager avec leurs bibliographies, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment un complément par rapport pour les universités, pour les bibliothèques publiques, par rapport à l'existant physique de la bibliographie. Par ailleurs, c'est aussi un outil de recherche extrêmement performant, puisque une fois je me trouvais à la BNF, à la réserve de livres rares, et un des conservateurs cherchait une référence et ne la trouvait pas dans ses livres physiques, et il l'a trouvée immédiatement sur le site de rarebooks.info, ce qui lui a permis d'aller tout de suite à la bibliographie physique concernée et d'en voir plus de détails. Oui.
À telle enseigne que dans le site, nous avons notamment une rubrique de liens et la plupart, ce sont des grandes bibliothèques internationales.
Absolument, absolument. Et on en a beaucoup aux États-Unis. On a des gens comme la Pierpont Morgan, on a des universités prestigieuses, on a beaucoup d'universités et de grandes bibliothèques en Europe, la Bayerische, la Bibliothèque Nationale de Hollande, celle d'Espagne. On a maintenant aussi des universités en Nouvelle-Zélande et quelques-unes en Amérique du Sud.
Et pas au Japon.
Et pas au Japon encore, non.
Pas, curieusement. Pourquoi pas,
parce que nous avons des marchands de livres qui sont abonnés au Japon.
Et alors, c'est un peu l'explication selon laquelle le site est rédigé en anglais.
Absolument, absolument.
Car à l'origine, il était en français, et puis vous êtes passé à l'anglais. Alors voilà. Évidemment, ça fait tout de suite hérisser les Français à l'Institut, dans l'endroit où nous sommes. Quelle explication donner ?
Le site est en français pour les bibliographies françaises. Il est en allemand pour les bibliographies allemandes, en anglais
pour
les...
Oui, vous n'avez pas traduit les bibliographies.
Non. Voilà. Donc, après ça, c'est le moteur de recherche, qui est extrêmement simple d'utilisation. C'est un peu comme le moteur de Google. Donc, qu'il soit en anglais, en allemand ou en espagnol, de notre point de vue, ça ne présentait pas beaucoup de... Bon, alors, il faut savoir que gérer un site comme ça, rajouter des bibliographies, l'entretenir, ça a naturellement un coût. C'est une opération équilibrée, je dirais. C'est pas une opération sur laquelle nous souhaitons faire des millions d'euros ou de dollars. On a fait ça par passion. Et je pense qu'on ne fera jamais le moindre profit significatif sur ce genre d'opération. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne l'a fait qu'en anglais. C'est pour limiter les coûts. Parce que si on le faisait en français, eh bien, la Bayerische Staatsbibliothek, qui a beaucoup travaillé pour faire connaître le site en Allemagne, aurait été en droit de le demander en allemand, etc. Vous voyez.
C'est la raison pour laquelle... ce n'est pas une raison d'ailleurs, il faut le préciser, c'est que l'accès à ce site est payant.
L'accès est
pas
payant.
Pas très élevé.
C'est un accès payant annuel qui est calibré pour que l'exploitation soit à l'équilibre. Avec deux types d'accès pour les universités, pour les institutionnels, un accès annuel ou un accès perpétuel. Accès perpétuel, c'est quelque chose qui n'est pas habituel en France, mais qui est courant dans le monde anglo-saxon. C'est un accès qui est payé une fois pour toutes, ad vitam aeternam, si j'ose dire, et qui donne droit également à l'ensemble de la bibliographie sur CD-ROM. Alors évidemment, ce n'est pas du tout le même prix, mais nous avons déjà un abonné américain et un abonné université de Nouvelle-Zélande qui a opté pour ce système.
Est-ce que vous penseriez commercialiser ce CD-ROM avec toutes les bibliographies ?
Non, nous ne souhaitons pas le faire, puisque quelque part, on le commercialise via le Perpetual Access. Et l'idée, c'est qu'il soit vraiment, cette bibliographie soit accessible au plus grand nombre. Donc, quand vous êtes un individu que vous voulez vous abonner, c'est naturellement beaucoup moins cher qu'un institutionnel. Ça rend ce corpus bibliographique tout à fait accessible.
Est-ce que vous avez une connaissance de vos abonnés, outre bien sûr les institutions et les bibliothèques que vous avez citées ? Est-ce qu'il y a beaucoup de bibliophiles, beaucoup de chercheurs, beaucoup de libraires ?
Alors, à l'origine, nous avons pensé que c'était un site qui intéresserait les amateurs. Et je crois que nous nous sommes trompés. Parce qu'en fait, la population d'abonnés, ce sont des universités, des grandes bibliothèques, comme je vous l'ai dit, mais aussi l'essentiel des marchands de cette planète en matière de livres rares, qui naturellement ne se gardent bien de le raconter à leurs clients. Et donc ça n'a pas encore passé la barrière des amateurs. Et c'est dommage, parce qu'une des raisons pour lesquelles on a fondé ce site, c'est parce que nous trouvions, nous, amateurs, des descriptions trop sommaires, quelquefois, chez les maisons de vente, aussi bien que chez certains libraires, et qu'on voulait avoir, on cherchait l'exhaustivité sur chacun des objets qu'on nous présentait. Et ça a été une des raisons du départ de ce site.
Vous voulez dire que les libraires ne vont pas jusqu'au bout dans leurs descriptions ou basquent les choses ?
Certains libraires.
Bon, pas tous.
Pas tous.
Nous connaissons ici, dans cette maison, on peut le citer très bien, parce qu'une façon, il me l'a dit, le chancelier de l'Institut, M. Gabriel De Breuil, qui éprouve un certain plaisir à lire les catalogues des libraires et les catalogues de vente.
Oui,
donc c'est forcément, il prend absolument les meilleurs, certainement. Donc cette clientèle, oui, je vous demandais, les amateurs, donc ça ne vient pas encore. Est-ce que c'est une question d'information ou bien...
Je pense que c'est une question d'information et que ça va venir par capillarité. Donc nous avons récemment fait des efforts sur de référencement sur des moteurs comme Google, où vous verrez qu'on apparaît relativement souvent maintenant en tête des recherches sur Rarebooks ou Rarebooks Bibliographies ou Livres Anciens, etc. Mais c'est un effort tout à fait récent. Et je dirais, bon... il valait mieux commencer par les vrais spécialistes pour aller ensuite vers les amateurs plutôt que l'inverse, puisque l'inverse n'aurait pas été possible.
Quel avenir voyez-vous à votre site, à toutes ces bibliographies rassemblées ?
Nous souhaitons devenir un site, sinon le site de référence en matière de bibliographie en facsimilé en ligne. Donc on va continuer à enrichir ce site. Voilà, après ça, c'est une contribution à la bibliophilie. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une affaire d'argent du tout, puisque les comptes d'exploitation sont à l'équilibre, point barre. On ne compte pas aller au-delà. Donc c'est vraiment une contribution que nous souhaitons prolonger. J'espère que dans 20 ans, ce site existera encore, peut-être avec des nouveaux moteurs de recherche plus efficaces encore, en tout cas avec beaucoup plus de bibliographies.
Je vous remercie.
Merci à vous.